Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission Le Temps des Jardins. Alors, vous reconnaissez ma voix, mais je suis dans un cadre très particulier. Aujourd'hui, nous assistons à un grand colloque sur les jardins. Et j'ai un invité, bien sûr, qui est, je suis très heureuse de vous faire rencontrer, Monsieur Marco Martella. Merci d'être avec nous, Monsieur Martella. Vous avez un rôle important dans ce colloque ?
Je fais partie du comité scientifique qui a travaillé en grande partie à l'organisation, à la mise en place, avec la région Normandie, l'Institut européen des jardins et paysages dont je fais partie, donc je fais partie du comité scientifique de l'Institut. Nous avons travaillé ensemble donc, pour établir un programme, pour offrir au public, pas uniquement local, mais aussi parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent de loin.
Il y a du monde, il y a beaucoup de monde.
Il y a du monde, il y a des gens qui viennent d'assez loin, donc à la fois pour parler de jardin et littérature, mais aussi pour découvrir le patrimoine paysager normand. Donc c'est une très bonne chose.
Oui, hier nous avons fait une grande promenade.
Exactement.
Nous sommes allés sur les traces du jardin de Maupassant, mm-hmm, et du jardin d'André-Gide. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous avons des conférences et des rencontres. Mm-hmm. Et vous-même, vous êtes écrivain, mm-hmm, vous venez à ce titre et vous êtes jardinier.
Exactement. Et à ce titre, justement, je m'intéresse depuis des années au lien qu'il y a entre le jardinage et l'écriture. Alors, je n'ai pas la prétention d'élucider la complexité des liens qui se tissent à chaque fois entre ces deux activités qui ont l'air d'être assez différentes, hein, écrire et jardiner. Mais en fait, quand on réfléchit bien, ce n'est pas très différent. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un court essai de Hofmannsthal, un grand écrivain de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, sur les jardins, dans lesquels il compare le jardin à la poésie. Donc, le jardinier choisit, travaille avec les plantes de la même manière qu'un écrivain, un poète en particulier, travaille avec les mots de la langue ordinaire, disons, mais pour en faire quelque chose d'autre, quelque sorte de langue magnifiée qui tente de réaliser un idéal, quelque chose de, voilà, qui est déjà en puissance de la langue. Et c'est un peu la même chose que fait le jardinier avec la nature. On prend des plantes, à la limite de plantes qu'on trouve dans nos bois, hein, des chênes, des charmes, des aubépines, j'en sais rien, des jonquilles sauvages, et des jacinthes sauvages pour faire une composition, pour mettre tout ça en résonance, en fait. Voilà, tous les éléments, le végétal, mais aussi l'eau, aussi la lumière. Hein, ce sont des matières très importantes pour les jardiniers. On n'y pense pas souvent, mais les jardiniers ne travaillent pas qu'avec les plantes, avec la terre, mais aussi avec l'eau, avec la lumière, avec... peut-être aussi avec des réalités encore plus impalpables qui sont présentes dans le lieu, dans le jardin, ce qu'on appelle souvent le génie du lieu. C'est ce que les Romains appelaient le génie du lieu, cette espèce de petite divinité. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne pense pas qu'il y a des divinités dans les jardins ou des petits dieux cachés, quoique on peut l'imaginer.
Oui, quoique.
Oh, on peut l'imaginer. On est libre d'imaginer ce qu'on veut. Le jardin, c'est un espace de liberté. Hein, donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et peut-être c'est même vrai, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a cette présence qu'on n'arrive pas à définir, qui est sans doute liée au vivant, à la présence d'éléments vivants dans la nature. Les plantes, c'est vivant. Bien sûr, il y a des animaux aussi. J'ai oublié les animaux. La terre est vivante,
ils s'invitent, les animaux. Même si nous comptons sans eux, on les retrouve.
Exactement. Les jardins, c'est un enclos, hein, par définition. Et pourtant, c'est un enclos ouvert, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Tant que les animaux arrivent, moi, dans mon jardin, j'ai toutes sortes d'animaux qui viennent. Parfois, ils sont désirés et bienvenus. Parfois, non. Mais parfois, ils sont les deux. Par exemple, les chevreuils qui viennent manger vos rosiers. Ils ne sont pas vraiment les bienvenus parce que vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas contente quand le matin vous vous levez et vous voyez que les rosiers ont été ou que les troncs des arbres ont été un peu atteints par les chevreuils. Mais ils sont tellement beaux qu'ils sont ils seront les bienvenus, quoi, parce que c'est aussi merveilleux de voir des chevreuils qui courent dans le jardin, qui le traversent en courant. Donc voilà, l'ambiguïté du jardin est énorme. Non mais c'est bien, donc c'est vrai que le jardin, pour moi, c'est un lieu de partage dans tous les sens, y compris avec les animaux, bien sûr.
Et votre activité d'écriture, elle a précédé celle du jardinage ?
Pas vraiment, parce que j'ai commencé à jardiner quand j'étais, comme la plupart des jardiniers, très jeune, quand j'étais enfant. Il y a toujours un jardin, souvent, disons, pas toujours, mais souvent un jardin de l'enfance dans lequel un père, une mère, un grand-parent apprend des tâches les plus... souvent les plus humbles du jardinage. Alors mon père qui aimait beaucoup le jardin, m'utilisait un peu comme pour faire des tâches, des choses qu'il n'aimait pas faire au jardin, désherber, arroser pendant 2 heures. Donc du coup, je commençais avec ça, avec des choses très simples, mais finalement, ce qui est paradoxal, c'est que je continue à aimer ça. Aujourd'hui encore, désherber et arroser, ça fait partie des activités que j'aime beaucoup au jardin. C'est contemplatif, ce sont les activités les plus contemplatives.
Et vous êtes un peu au service de votre jardin.
Je pense qu'on est au service du jardin. On se met au service de quelque chose qu'on a créé soi-même, puisque la nature ne fait pas de jardin, en principe. Le jardin, c'est une création moderne, humaine. C'est l'homme qui dit, voilà, un petit bout de monde, là, dans ce terrain-là, je vais faire un jardin. La nature n'a vraiment pas besoin de ça. Ou quoi que, je ne sais pas. Enfin, peu importe. Après, on se met au service de cette œuvre qu'on a. Mais encore une fois, ce n'est pas très différent de ce que font les écrivains.
Je voulais y venir. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si différent?
Parce que là aussi, on se met un peu au service de quelque chose qu'on a soi-même mis en route. Que ce soit un roman, voilà, on imagine une histoire ou un poème. Voilà. Il n'y avait rien et tout d'un coup, il y a un écrivain qui a eu cette idée de créer, de faire un livre, etc. Et puis après, on se met au service de quelque chose. On sent que c'est l'idée même, ou le projet, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, qui guide. Il faut suivre, il faut apprendre à suivre, il faut apprendre à se mettre au service d'un projet qui dépasse l'individu. Que ce soit le poète, l'écrivain ou le jardinier. Il se met, encore une fois, au service, avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Mais les jardiniers et les écrivains le savent très bien. Il faut toujours beaucoup d'humilité. Même derrière les jardins les plus... je change de sujet, mais Versailles, pensez à Versailles, c'est oui. Les jardins les plus grandioses, les plus arrogants même.
Dans oui. Son...
Et pourtant, le jardinier André Lenôtre, qui est l'un des grands concepteurs de Versailles, pas le seul, mais quand même, il travaillait avec une grande discrétion, une grande retenue en fait. Même à Versailles, le jardinier savait qu'il fallait se mettre au service de quelque chose, d'un grand projet, et ne pas rester parfois assez discret et assez modeste. C'est un peu paradoxal de parler de modestie à propos de Versailles, mais je pense qu'il y a une modestie chez le nôtre.
Et peut-être au service aussi des générations à venir, parce que tout allait pousser.
Bien sûr, oui.
J'ai trouvé surprenant le titre de votre dernier livre, et je le trouve encore plus surprenant en vous écoutant, puisque ce titre est « Un petit monde, un monde parfait ». Qu'est-ce que c'est cette perfection? Elle est donnée ou elle est à trouver?
Elle est peut-être les deux, peut-être donnée et à trouver. Mais le mot « perfection » est un peu paradoxal au jardin, donc je l'utilise. D'ailleurs, il faut dire que ce n'est pas le titre... je ne l'ai pas inventé. C'est un vers, je l'ai dit dans le livre en même temps, je reconnais que c'est un vers tiré d'un poème de Vita Sackville West, oui. La grande romancière, poète et jardinière
et
anglaise,
oui,
qui a créé les jardins de Sissinger.
Voilà, ces jardins qui sont extrêmement visités et d'une grande beauté. Oui. Et elle voulait un monde parfait?
Non, elle disait, c'est très beau en fait ce passage du poème, et c'est ça qui m'a frappé et qui m'a donné l'idée, évidemment, parce que je suis tout à fait dans cette... Je vois les choses exactement de la même manière. Elle a écrit ce poème dont le vers est tiré, The Garden, le jardin, dans les années 40, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et elle s'est posé la question dans ce poème, quel est le sens d'un jardin dans un monde qui a l'air de s'effondrer? C'était l'Angleterre attaquée par les bombardiers allemands tous les jours, presque, pendant la bataille d'Angleterre. Quel est le sens? Elle dit dans un monde de ténèbres. Le jardin, c'est comme, et c'est une image très jolie, c'est comme une petite chouette qui voit dans le noir. C'est très joli, en fait. Donc, dans ce monde qui s'effondre, le jardin, c'est un petit monde, quand même, qui résiste c'est évidemment assez pathétique, et peu, un jardin, contre les bombes et contre la guerre, absolument rien.
Rien.
Mais c'est presque un acte de résistance. Et la perfection est peut-être là, c'est dans ce sentiment qu'un jardin peut vous donner d'être dans un monde qui est un monde encore d'harmonie, qui résiste malgré tout.
Et où être encore debout, au milieu de tout ce qui s'écroule.
Exactement.
Et qui continue de pousser.
Exactement. Et alors ça, c'est aussi Hermann Hesse, cet écrivain allemand dont je vais parler au colloque où nous sommes. Hermann Hesse a écrit un très beau passage dans une de ses lettres. Il dit, même si parfois on a l'impression que le monde va vers la ruine, vers la... parce que lui aussi il a écrit beaucoup sur le jardin pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, dans des moments très difficiles pour l'Europe et avant, dans les années 30, le nazisme et tout ça. Même si on a le sentiment que le monde s'effondre, peut-être un jour on vivra dans un espace où tout est bétonné, où il y aura... mais malgré tout il y aura des herbes qui continuent à pousser et les plantes qui continuent à pousser. Donc la nature nous donne cette forte espérance et le jardin comme lieu de rencontre entre l'homme et la nature, de travail commun entre l'homme et la nature, d'œuvre commune de l'homme et la nature, est un espace d'espoir qui résiste malgré tout.
C'était une grande joie de vous entendre. Alors nos auditeurs entendent des cloches parce que là, on est à l'abbaye aux Dames, on est au plein centre de Caen et ce colloque est un lieu de rencontre d'exception. On va y retourner, on va continuer de travailler et je suis vraiment très très émue et très heureuse de vous avoir entendu, d'avoir partagé ce moment avec vous, Monsieur Martella. Et puis là, je vais aller chercher votre livre parce que j'ai vraiment envie de le lire.
Très bien, c'est moi qui vous remercie.
Chers auditeurs, au revoir et à bientôt.